Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 12 février 2026. Vous connaissez mon amour pour les statistiques économiques et tout particulièrement lorsque cela vient du Bureau of Labor Statistics qui a l'air d'avoir le don de nous sortir des chiffres qui ont tous l'air toujours très arrangeants pour la situation politique du moment. Je n'ai pas dit économique mais politique. La publication des chiffres de l'emploi d'hier est lunaire par rapport à ce que l'on sait. Cette impression que l'on sort toujours la news qui fait que le film obtient son happy end et me laisse relativement perplexe. D'ailleurs, lorsque l'on observe la clôture des indices, effectivement, je crois que l'on peut dire que nous sommes dans le doute et le flou le plus total. Wall Street a donc passé sa séance de mercredi à faire ce qu'elle fait de mieux en ce moment, changer d'avis toutes les 10 minutes et se comporter comme une girouette. Hier, je vous disais que l'on manquait de carburant pour aller en avant. On nous a donné du carburant avec les NFP, mais visiblement, ça ne nous suffit pas. Soit parce que c'est pas assez, soit parce que ça remet en cause toute la stratégie qu'on a mis en place depuis plus de 2 ans. Stratégie qui commence par « de toute façon, ça va monter parce que la Fed, elle va baisser les taux ». Oui, parce que là, avec les fabuleux chiffres de création d'emplois, on va pouvoir la repousser bien plus loin que prévu, la dite baisse des taux. À moins qu'on nous ait menti, ce qui n'est pas du tout le genre du BLS et encore moins de la Maison-Blanche. Les indices américains ont donc entamé la journée et la séance en fanfare, après un rapport sur l'emploi bien plus solide que prévu. Au-delà des chiffres, le message que l'on nous fait passer hier, c'est celui qui dit que l'économie américaine continue d'embaucher à un rythme respectable, le chômage recule. Bref, pas franchement le décor d'une économie en urgence respiratoire. Au contraire, une économie en pleine forme qui profite pleinement des réformes qui portent le sceau de Donald Trump. Ce qui contraste énormément avec les chiffres de la semaine dernière, il faut le dire. Ceux qui ne sont pas tenus par le gouvernement. C'est fou, non? Non, parce que je vous redonne les données de la semaine dernière. Chiffres ADP, ceux de l'emploi privé qui sont merdiques au possible et nettement en dessous des attentes. Et annonce officielle comme quoi 100 000 personnes se sont fait virer au mois de janvier. Le pire mois de janvier depuis 2009, je le répète. Mais hier, non. Hier, on fabrique des emplois à la vitesse des taxes douanières et aussi facilement qu'un post sur les réseaux sociaux. Et tout le monde, il est content. Il y a un peu plus de 24 heures, les experts nous disaient que, compte tenu de ce que l'on savait, les 70 000 créations d'emplois étaient irréalisables et que l'on s'attendait clairement à moins que ça. Et paf, le chien, caramba, encore raté. Alors oui, on peut dire que les experts se sont gourés, que le BLS sait ce qu'il fait, lui. Mais pour être là depuis très très longtemps, je crois surtout que le BLS ne sait pas ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'on lui dit de faire et que si on le laisse faire ce qu'il veut, on a droit à des révisions dans tous les sens pendant les 4 mois qui suivent. Bref, 130 000 jobs ont été créés en janvier 2026 et le taux de chômage baisse à 4,3%. Résultat immédiat, euphorie d'ouverture, indice au plus haut depuis plus d'une semaine, ambiance, tout va bien. Et Trump est ensuite intervenu avec son clairon, ses trompettes et son orchestre pour nous déclarer solennellement devant Fox News que « excellent chiffre de l'emploi, bien meilleur que prévu, les États-Unis d'Amérique devraient payer beaucoup moins que sur leurs emprunts, nous sommes de nouveau le pays le plus fort du monde et nous devrions donc payer de loin le taux d'intérêt le plus bas ». Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai soupiré. Ensuite, j'ai calculé. Il reste 25 896 heures avant que le successeur de Trump ne prête serment. Pendant que le président finissait de publier ses délires perso sur X et sur Truth Social, la seconde lecture des chiffres est arrivée. Oui, parce que si l'emploi tient aussi bien, la Fed n'a aucune raison de se précipiter pour baisser les taux. Et là, les investisseurs commencent à recalculer. Les probabilités de baisse des taux en juin fondent un peu. Du coup, il ne se passera rien avant juillet. Et si les prochains mois sont aussi bons que le revendique la Maison-Blanche, le prochain mouvement sur les taux se fera en automne et ce sera une hausse. Bon, ok, j'exagère un peu, mais c'est l'idée. Et c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Du coup, après les chiffres et après réflexion, l'enthousiasme s'est tempéré. Pas de panique, mais un rappel brutal que bonne nouvelle économique ne veut pas toujours dire bonne nouvelle pour la politique monétaire. Au final, le marché digère plutôt bien le message. L'économie est solide, sans être en surchauffe. Un équilibre presque confortable, suffisant pour rassurer, mais pas assez explosif pour forcer la Fed à changer son calendrier, ni sa position attentiste. Et au vu de la photo satellite actuelle, Warsh ne pourra pas fêter sa prise de pouvoir avec une baisse des taux. Ou alors, c'est que Trump aura ordonné de réécrire les livres d'économie pour changer l'approche existante. Par la sienne. Dans ce cas-là, tout est possible. Même marcher sur l'eau. Prochaine étape, les chiffres de l'inflation vendredi qui pourraient à nouveau redistribuer les cartes. Et c'est reparti pour un tour de manège. Côté secteur, c'est le grand écart. L'énergie mène la danse, portée par un regain d'appétit pour le risque. Et c'est aussi pour les tensions qui ne diminuent pas sur le baril à cause de l'Iran, tandis que les financières reculent. Les banques aiment les taux élevés, mais détestent l'incertitude sur leur trajectoire à moyen terme. Dans la tech, c'est le théâtre habituel. Les semi-conducteurs rebondissent. Disent franchement, pendant que les logiciels rendent une partie de leur rattrapage récent, Microsoft et Alphabet pèsent sur les indices. Du côté des chiffres, on retiendra que McDonald's a battu les attentes au quatrième trimestre grâce à une stratégie agressive de promotion et de menus à bas prix qui ont ramené les consommateurs dans ses restaurants, surtout aux States. Les ventes progressent fortement, y compris à l'international. McDo prévoit d'accélérer les ouvertures de restaurants et mise aussi sur le marché très rentable des boissons pour soutenir la croissance, même si l'inflation découle. Reste un défi pour les marges. Sauf qu'il se gourre. Il n'y a pas d'inflation. C'est le BLS qui le dit. L'action McDonald's terminait en baisse de 0,85%. J'en ai des frissons. En résumé, on a un marché qui célèbre la résilience de l'économie tout en se demandant si cette même résilience ne va pas repousser les cadeaux de la Fed. Le genre de paradoxe que Wall Street adore et qui promet encore quelques séances nerveuses. Hier, la plus grosse variation des trois indices, c'était le Nasdaq qui perdait 0,16% pendant que le S&P 500 terminait avec une variation de 0,00%. En Europe, la plupart des indices terminaient dans le rouge. On notera les bons chiffres de Total Energy qui va sûrement se faire démonter par la gauche française parce qu'il pollue et qui devrait redistribuer les dividendes au peuple. Et puis il y a eu Dassault Systèmes qui s'est craché en flammes. Les résultats du trimestre sont jugés mous et les perspectives trop prudentes pour 2026. La croissance ralentit, les revenus récurrents déçoivent et la transition vers le cloud et l'IA prend plus de temps que prévu. Malgré de bons signaux sur sa plateforme phare et un partenariat stratégique avec Nvidia, les investisseurs ont retenu une chose, pas assez dynamique à court terme, d'où une chute historique du titre qui perdait plus de 21% hier. En Suisse, c'est Schindler qui s'est fait laminer de 10% après des chiffres pas trop mal, mais aujourd'hui pas trop mal. C'est insuffisant. En Allemagne, le DAX était en baisse de 0,53%, mais le titre faisait parler de lui, était en hausse de près de 8%. Siemens Energy a livré un trimestre largement au-dessus des attentes, avec des bénéfices, des revenus et un cash flow en forte hausse, porté par un carnet de commandes record et la bonne dynamique de tous ses segments, notamment l'éolien. Le groupe confirme ses objectifs annuels malgré cette performance impressionnante. Le marché retient surtout une chose, Siemens Energy surfe pleinement sur le boom des investissements dans l'énergie et les infrastructures électriques. Les marchés asiatiques sont légèrement en hausse, mais pas partout, coincés entre euphorie technologique locale et rappel à l'ordre venu des États-Unis. La star du jour, c'est la Corée du Sud. Encore, le Kospi explose vers un record historique porté par la folie autour des semi-conducteurs liés à l'IA. Samsung s'envole après avoir mis en avant son avance technologique sur les puces mémoire de nouvelle génération, nourrissant l'idée que la prochaine vague IA passera aussi par là. SK Hynix suit le mouvement. Bref, l'IA, toujours l'IA, et le Kospi est en hausse de 2,75% au plus haut de tous les temps. Au Japon, le Nikkei a brièvement franchi un sommet historique au-dessus des 58 000 points avant de se calmer. Derrière cette poussée, le fameux Takaichi Trade, les investisseurs parient sur une politique pro-croissance favorable aux industriels et aux exportateurs. L'enthousiasme reste présent, mais sans excès. Les gains asiatiques restent contenus, Wall Street ayant déjà montré une certaine retenue la veille. La Chine reste amorphe et Hong Kong fait bande à part en reculant. L'or est à 5087 et la volatilité autour du métal jaune semble se calmer, tout comme celle sur l'argent qui traite à 83,70. Le bitcoin est à 67 000 $ et le baril s'échange à 64,89. Autour du pétrole, c'est toujours la même histoire. L'Iran et les USA se regardent en chien de faïence et rien ne bouge. Trump insiste sur la volonté de négocier, mais il se demande quand même s'il ne va pas envoyer un autre porte-avions dans la région. Les Iraniens continuent d'expliquer comment ils vont bombarder ces chiens d'Américains s'ils osent mettre un pied sur leur terre sacrée. On n'est pas sorti de l'auberge. Dans les nouvelles neuves, hier soir, Cisco a publié un trimestre supérieur aux attentes, porté par la forte demande des géants du cloud qui investissent massivement dans les infrastructures liées à l'IA. What a surprise. Le bénéfice et le chiffre d'affaires progressent solidement, malgré un léger recul de l'activité des services. Le groupe délivre aussi des prévisions un peu au-dessus du consensus pour la suite de l'exercice. Pourtant, le titre recule après bourse, signe que le marché en voulait encore plus. Jamais content, le marché est en toile de fond. Cisco se positionne clairement comme un fournisseur clé de l'ère IA, mais le titre perdait plus de 7% hier soir. Revenons brièvement sur le sujet des NFP d'hier. Les chiffres publiés hier donnent l'image d'un marché du travail qui est solide. Création de postes au-dessus des attentes, chômage en légère baisse. Bref, le genre de statistiques qui rassure Wall Street et qui pousse la Fed à lever le pied sur toute idée de baisse rapide des taux. Vu de loin, la machine économique américaine tourne encore, mais quand on zoome, le tableau est moins lisse. Tout d'abord, dans le sillage des chiffres d'hier, le BLS a aussi expliqué que le chômage de longue durée progresse. Aujourd'hui, environ un quart des chômeurs américains sont sans emploi depuis au moins 6 mois, contre 21% il y a un an. Ça veut dire que même si des jobs se créent, une partie de la population reste mise de côté. C'est souvent le signe d'un décalage entre les compétences disponibles et les besoins réels du marché ou d'un ralentissement plus diffus que les marchés globaux, que les chiffres globaux ne capturent pas immédiatement. En clair, le marché de l'emploi embauche, mais pas tout le monde. Deuxième point encore plus révélateur, toujours dans le rapport du BLS, la pression financière monte dans les ménages modestes, l'endettement continue de grimper et surtout les retards de paiement sur les crédits immobiliers dans les zones à bas revenus atteignent leur plus haut niveau depuis 10 ans. Ça ne ressemble pas à une économie en crise ouverte, mais ça sent le stress budgétaire. Les taux élevés, l'inflation passée et l'érosion du pouvoir d'achat laissent des traces. Mis côte à côte avec les chiffres solides de l'emploi, ces deux signaux racontent une réalité plus nuancée. L'économie crée des emplois, oui. Mais la qualité et la répartition de cette reprise restent inégales. Une partie de l'Amérique profite encore du cycle pendant qu'une autre commence à sentir le poids du crédit cher et de la stagnation des revenus. C'est exactement le type de divergence que les marchés ont tendance à ignorer. Le bon vieux Wall Street versus Main Street, jusqu'au jour où elle devient trop visible pour être mise de côté. Et puis autrement, les tarifs douaniers de Trump se retrouvent au croisement de la politique des finances publiques et du droit, et la tension monte sur les trois fronts. Et sur le plan budgétaire, les chiffres sont spectaculaires. Les recettes douanières ont bondi de plus de 300% sur un an en janvier, générant 30 milliards de dollars sur le mois et 124 milliards depuis le début de l'exercice fiscal. Cette manne a temporairement freiné le déficit américain, offrant un répit dans un contexte où le poids des intérêts de la dette reste colossal. Mais ce soulagement repose sur une incertitude majeure. La Cour suprême doit encore statuer sur la légalité de ces tarifs. Une décision défavorable pourrait forcer Washington à rembourser les sommes perçues, vous le savez, transformant un gain budgétaire en risque financier. Si, souvenez-vous, on en parlait il y a 3 semaines. C'était à bout touchant. Mais visiblement, les juges de la Cour suprême prennent leur temps et le stress n'est pas la préoccupation première. Parallèlement, la pression politique s'intensifie puisque la Chambre des représentants, pourtant républicaine, a voté pour supprimer certains tarifs douaniers contre le Canada, révélant des divisions à l'intérieur même du parti à l'approche des élections mi-mandat. Entre accusations d'inflation alimentée par les droits de douane et défense d'une stratégie économique protectionniste, le débat devient explosif. En clair, les tarifs soutiennent les finances publiques à court terme, mais s'exposent à un double risque juridique et politique qui pourrait rapidement changer la donne. Le sujet n'est donc pas clos. Au fond, cette journée résume parfaitement l'époque. Des chiffres officiels qui racontent une économie solide, des signaux secondaires qui murmurent l'inverse, des marchés qui oscillent entre optimisme mécanique et doute existentiel, et une politique économique qui tient autant du pari que de la conviction. On avance dans un brouillard confortable. Tant que les chiffres tiennent, tout le monde applaudit. Mais les fissures commencent à se voir dès que l'on gratte la surface. Et c'est souvent comme ça que les vraies histoires de marché commencent, pas dans l'explosion, mais dans l'incohérence. La suite dépendra moins des slogans que de la réalité économique. Et elle finit toujours par rattraper tout le monde. Et le S&P 500 est toujours sous les 7000. Aujourd'hui, on regardera les jobless claims américains. Puis du côté société, il y aura Hermès, Applied Materials, L'Oréal, Unilever, Siemens. Et d'ici là, soyez forts, injectez-vous du café pour vous tenir éveillé. Et on se voit demain pour boucler la semaine.